15h45 à l'antenne de Radio Béton 93.6 en direct de la 8e édition du Wet au Théâtre Olympia. Je rouvre les tranches du micro pour nos prochains invités. C'est à toi, Thomas.
Merci beaucoup, Thomas. Et merci beaucoup, Mélissa. Oui, c'est pas un sketch. D'être ici avec nous. Mélissa, donc, tu présentes le spectacle L'Agrume, et c'était déjà hier, c'était ce matin, c'est tout à l'heure à 18h et ce sera demain de nouveau à 11h et à 18h c'est à Talm. Donc 5 fois hein, ce spectacle, mais avec une jauge réduite. Combien la jauge à peu près?
On vient d'ouvrir à 50.
D'accord.
On a rajouté 5 places depuis hier, donc des places se sont libérées, avis aux amateurs et amatrices.
Alors là, tenez-vous-le pour dit, parce que ça se recherche, hein, y compris sous le manteau, sur le bon coin, sous le manteau et sur le bon coin, effectivement, les places pour L'Agrume sont des places extrêmement chères. Alors Mélissa, donc, tu apparais un tout petit peu sur scène, mais l'essentiel du spectacle est joué par Marie-Bénédicte Cazeneuve, citons-la quand même, puisque
absolument.
Elle t'accompagne depuis le début, je crois, dans la création de ce spectacle et qui appartient à cette compagnie que tu as créée pour le spectacle, je crois d'ailleurs,
oui, c'est
Dordle.
Vous êtes
donc,
bien renseignés.
Dans un réseau de lignes entrecroisées, qui est le titre d'un chapitre d'un roman d'Italo Calvino. Pourquoi lui, tiens?
Ça fait partie des auteurs que je lisais quand je cherchais le nom de la compagnie. C'était le soir de l'annonce du confinement. On venait de voir l'allocution de Macron. Et j'étais en train de lire, je dis des bêtises, je lisais Pensée classée de Pérec.
D'accord.
Et dans Pensée classée, Pérec cite ce chapitre d'Italo Calvino que je me suis empressée de lire après. Et comme le but de la compagnie, c'est de créer des dispositifs qui rendent curieux les spectateurs et spectatrices, qui amènent à se renseigner sur d'autres œuvres, j'aimais bien cette idée que c'est un nom à tiroir et que quand on gratte, on peut trouver d'autres personnes qui font résonner ce qu'on fait.
Je suis hyper content que tu parles de Pérec, parce que j'aurais eu envie de te parler de Pérec, mais peut-être qu'on aura le temps après, mais le spectacle m'a fait tellement penser à Pérec. Bon, disons très vite ce dont il s'agit quand même. Le spectacle s'appelle L'Agrume et c'est le titre d'un livre de Valérie Mregen qu'elle publie en 2001. Il se trouve qu'en fait, en 2001, ce texte a un succès d'estime extrêmement important.
Oui.
Ça devient une espèce de petit livre culte dans ces années 2000-là. Alors du coup, évidemment, ma première question, c'est celle-ci. Comment tu es rentrée en contact avec ce texte-là?
Eh bien, c'est Marie-Bénédicte, la comédienne.
D'accord.
Qui me l'a soumis, parce qu'on avait fait un stage de cinéma toutes les deux, on était un peu désœuvrés, on trouvait qu'on ne travaillait pas assez, qu'il fallait qu'on s'occupe en attendant d'avoir du travail qui arrivait. Et on a commencé à se faire lire des textes, et puis on voulait comme ça, mais sans aucun objectif, travailler sur de la littérature qui nous intéressait. Et ce texte, j'ai eu un coup de cœur, mais à l'époque, je n'avais pas de volonté de le mettre en scène, et je n'avais par contre pas envie de l'incarner. Et donc je lui ai dit, si tu veux, je reste à l'extérieur et puis on travaille comme ça. Et ça a été un révélateur. J'ai monté des petites choses, mais en tant que metteuse en scène sur commande dans des cadres un peu scolaires. Et là, le fait de travailler sur ce texte m'a vraiment permis de comprendre, de nommer quelles étaient mes obsessions, mes tocs. Donc la mémoire, le travail du temps qui se pose sur les lieux. Aussi, cette question de l'incarnation, c'est assez important pour moi. Comment on incarne à notre époque sur les plateaux la question du premier degré, c'est quelque chose qui j'avais envie. Je trouvais que là, c'est un texte autobiographique, c'est écrit avec quelques années de distance, et c'est joué par une tierce personne. Ça faisait déjà 3 strates de temps qu'on pouvait explorer au plateau.
Voilà. Donc L'Agrume, c'est Bruno, c'est un homme de qui Valérie est, j'allais dire amoureuse, je ne sais pas. En tout cas, elle a une relation avec.
Oh oui, on peut
avec,
dire amoureuse,
et c'est un texte qui est écrit à la première personne. Et c'est là où je pensais un peu à Pérec. C'est-à-dire que cette histoire, elle est racontée vraiment très intéressant. Ou le personnage de L'Agrume, peut-être vraiment de l'extérieur, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il montre, avec ce qu'il est, avec les objets, etc. Il y a un peu ces choses pérecciennes, là.
Oui.
Et ça, tu les reproduis beaucoup sur le plateau, puisque, alors disons-le quand même, je ne sais pas comment vous faites de lieu en lieu, mais en tout cas, le lieu est totalement exploité. Ici, nous sommes dans 3 lieux et le lieu, donc c'est une déambulation. Si j'ai bien tout compris, il y a 2 formes de ce spectacle. Tu pourras nous en parler. Je crois que ce que nous avons vu, c'est la forme muséale, mais je suis même pas sûr.
C'est exactement ça.
Et du coup, nous suivons la comédienne de lieu en lieu et les lieux sont occupés par un tas d'objets, un tas de post-it, un tas de photographies, un tas de petites choses. Et alors, j'ai cru déceler, puisque vous avez la gentillesse de nous laisser déambuler dans ce lieu pendant une demi-heure après le spectacle. spectacle, j'ai cru déceler qu'il y avait certes des choses qui étaient très probablement inspirées par des choses que l'on entend ou que l'on lit dans le texte, mais aussi des choses qui appartiennent à une autre intimité ou à d'autres intimités peut-être. Mais en tout cas, on voit par des noms qu'on croise sur des post-it ou sur des flipbooks ou sur des choses comme ça, des choses qui portent ton nom à toi. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs intimités, enfin ton nom de famille en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs intimités comme ça qui s'entrecroisent et que le texte vient montrer, mais vraiment très explicitement, toutes les résonances que ça a pu avoir dans ces strates dont tu parlais.
Ah oui, bah, ça fait plaisir, vous dites bien les choses. On a essayé en fait de créer un dispositif où les spectateurs et spectatrices ne sont pas dans le rapport scène-salle habituel. La déambulation permet qu'il n'y ait pas de frontière entre la personne qui joue et celles et ceux qui regardent. Et ça permettait aussi de casser la barrière entre l'intime et le public. Or, il n'est question que de ça, vu qu'elle part de son histoire personnelle et qu'elle en fait un écrit publié, donc consultable par tous. Et on voulait reproduire comme ça ce mouvement qui fait qu'on part des fois de moments de nos vies très intimes en tant qu'artiste. Et puis que le temps fait qu'on arrive à le mettre à distance et à choisir certaines choses pour les partager. Donc la déambulation, elle permet aussi ce mouvement, cette émancipation, non seulement de la relation amoureuse un peu compliquée, mais aussi comment on quitte l'intime pour en extraire quelque chose de public. Donc on est dans un espace complètement ouvert, le public déambule vraiment à son rythme, il se met où il veut, il peut même bouger au cours d'une scène s'il a envie. Et puis ça permettait aussi de retrouver quelque chose qui m'importait beaucoup, c'est le rapport au gros plan qu'on a dans le livre. J'avais des impressions très physiques, des matières, et je me demandais comment on allait retravailler ça au plateau, si on était vraiment dans son fauteuil et qu'on n'en bougeait plus et que le verdure Alex avait 2 cm au loin. Voilà. Et donc je voulais permettre que... On navigue au milieu de tout ça et que des fois, quand on est peut-être un peu loin de la comédienne ou qu'on ne voit pas complètement bien, on peut regarder le truc à côté et puis que notre parcours dans le spectacle se nourrit aussi de toutes les petites choses qu'on glane. Donc il fallait cette liberté-là de déplacement. Et par rapport à ce que tu disais des archives, en fait, on n'a pas du tout... Alors on a rencontré Valérie Mrejane, maintenant on se connaît bien, elle nous accompagne, elle est venue faire une conférence, on a travaillé avec des élèves à Talmes, l'école des Beaux-Arts, elle est venue, etc. Mais on n'a jamais posé de questions. Alors on sait que le Bruno s'appelle Bruno R, parce que c'est cité. On n'a jamais voulu savoir son nom de famille. On ne cherche pas à savoir à quoi il ressemble. Et on ne lui a pas du tout demandé de choses de l'ordre de ses archives personnelles. En revanche, pour arriver à traiter tous ces fragments, parce que c'est que des petits blocs de texte qui se superposent, qui s'amoncellent, il fallait quand même que tout reste vivant, dynamique. Donc on a cherché à créer nos imaginaires à nous. Et donc on s'est nourri de films, de photos. Moi j'ai vécu pendant longtemps à Paris et donc on partage ces lieux, Marie-Bénédicte est parisienne. Donc on est venu poser un équivalent visuel ou concret, un objet sur chacun de ces paragraphes et le public comme ça a accès à toutes ces choses.
Est-ce que ce qui est au mur, ce qui est accroché au mur, les post-it, leur disposition, etc., est-ce que tout ça a une espèce de manière pérenne d'exister dans le spectacle ou est-ce que ça change suivant les lieux en fait, que vous investissez?
Oui, ça change. Là, c'était très court le temps d'installation, donc j'avais pris des photos dès la dernière fois qu'on a joué, d'accord. Donc on a reproduit très vite, mais depuis hier, on fait évoluer les choses en fonction de la circulation du public, la lumière, où ça tombe. Des fois, j'ai envie de changer, donc la comédienne s'adapte à chaque fois, elle retravaille beaucoup à chaque représentation.
Et le texte, alors ça c'est un mystère pour moi que je n'ai pas complètement établi parce que je n'ai pas repris les 80 pages du livre, mais j'ai l'impression qu'on a une bonne partie du texte, mais est-ce que le texte auquel on assiste, c'est tout le texte que connaît la comédienne, ou est-ce qu'elle fait des choix, elle fait des coups, est-ce que ça change, parce qu'il y a quand même un moment extrêmement explicitement où quelque chose peut changer dans le spectacle, il y a un petit sablier qui donne un timing extrêmement précis, et on sent bien que là elle fait des choix, mais est-ce que les choix ils sont à l'échelle du texte, ou est-ce qu'il y a quand même... Quelque chose qui est dit tous les soirs.
Oui, la structure, elle est assez fixe. Cependant, elle contient une part d'aléatoire, c'est-à-dire il y a des embranchements en fonction de choses qui sont faites au plateau, la couleur du stylo qu'elle utilise, si elle tire pile ou face. Il y a une cocotte en papier aussi. Il y a des moments où elle a 4, 5, des fois il y a une infinité de possibles, comme dans ce moment que vous citez avec le sablier. mais on a quand même bordé un peu les choses. Après, il arrive que, par exemple, là, on joue à Tours. Il y a, dans le texte, c'est marqué quelque chose qui se passe à Tours. Si on allait jouer à Châteauroux, on pourrait ressortir un paragraphe. La comédienne a appris beaucoup, beaucoup plus de texte que, voilà, ce qu'on dit dans le spectacle. Et on peut les faire ressurgir parce que longtemps, on les a brassés avant de définir cette structure avec ces petites ces bifurcations d'aléatoires.
Et c'est assez étonnant d'ailleurs la manière, parce qu'on peut le dire, dans cette minute sablier dans laquelle il y a ça. Toi, tu parais à ce moment-là, tu comptes quelque chose. Et puis, tu ne fais que passer. Tu es là dans le spectacle depuis le début. Qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce que toi, tu viens faire sur scène? Et c'est pas du tout une... La manière de lire est un peu ironique, là. Mais pourquoi cette présence au plateau aussi avec la comédienne, comme ça?
Quand on a créé, il y a un an, on le faisait pas. Et puis, lors d'une résidence, on a commencé à travailler ça, parce que on s'est dit que finalement, la figure, parce qu'on utilise narratrice quand il y a un récit, et là, au plateau, cette figure de narratrice nous embarrassait parce que c'est une sorte de figure conceptuelle qui n'est pas concrète. Et donc, on disait, c'est aussi Marie-Bénédicte vraiment sur le plateau. Mais en fait, ce n'est pas que Marie-Bénédicte, c'est Marie-Bénédicte nourrie de tout le travail. Et finalement, c'est une figure qui est une sorte de fusion entre elle et moi. Parce que, il y a quand même, toute la circulation, c'est quand même pas mal ma façon de concevoir les choses. Vous avez accès à un bout de mon cerveau en venant voir le spectacle. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi qu'on voit les étapes du travail en cours à un moment du spectacle et donc que j'apparaisse en train d'agir sur le dispositif comme ça.
Alors, ce sera ma dernière question parce que le temps file et qu'on a encore des compagnies à recevoir, mais j'ai aussi l'impression que ce texte est tel qu'il est écrit, très probablement, et tel qu'il est joué, tel qu'il est conçu, tel qu'il est mis en scène. J'ai l'impression que c'est aussi le très beau portrait d'une émancipation, en fait, d'une personne qui s'émancipe d'une relation, qui s'émancipe d'un homme, peut-être. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as lu ou qu'il a été mis en scène?
Oui, au début, on s'est dit peut-être qu'à notre époque, ça va être compliqué ce récit parce que c'est quand même un homme qui prend beaucoup de place et une femme qui est assez transparente. Mais finalement, on a accès à toute la beauté de leur relation parce que je continue à batailler. Je trouve que quand même, c'est une très belle relation qu'ils ont eue, même si l'amour était compliqué. Et que c'est avec cette relation, elle a pris sans doute conscience d'un rapport au monde qui était partagé, donc qui existait quelque part, mais qui était aussi nourri de toutes ces influences artistiques qui faisaient écho pour elle. Et c'est par ces mots à elle qu'on a accès à cette beauté, même si c'est lui qui semble le plus érudit, le plus cultivé. Et donc y a aussi cette figure d'artiste en germe, et ce qui n'est pas dit dans le livre, c'est qu'elle est artiste au moment où elle rencontre, elle est en train de se former, et donc je lance les lecteurs éventuels, elle vient de sortir un livre qui s'appelle La jeune artiste, qui traite à peu près de ce qui se passe au moment où elle rencontre ce fameux Bruno, mais donc elle rentre aux Beaux-Arts, et ça c'est pas du tout dit dans La Grume, mais vous avez un bon pendant littéraire pour connaître l'autre versant du pile
et
face.
Et elle a fait de jolis films aussi, Valérie Mérégène. Merci beaucoup, Mélissa Barbeau, d'être venue nous parler si bien de ce spectacle-là qui joue encore tout à l'heure. Et donc, merci de cette disponibilité d'être encore là avec nous à 16h. Il joue à 18h à Talm, à 11h et de nouveau à 18h demain. Et donc, on l'a appris en début d'interview, quelques places se sont libérées. Courez-y, merci. Non, vas-y.
Juste, vous avez dit qu'il y avait mon nom dans la scénographie. J'en profite qu'on soit à Tours. En fait, c'est le nom de mon papa qui est illustrateur.
Mais c'est ça.
qui a fait un petit dessin pour un flipbook.
C'est bien ça dont je parlais, effectivement. Merci beaucoup, Mélissa.
Donc, cette fameuse dernière question, Mélissa, on s'est calé hors antenne sur un choix d'une multi-artiste, Jeanne Balibar, sur l'album Par amour en 2003, avec le morceau Pas dupe, en co-écrit, je crois, avec Rodolphe Berger, l'excellent Rodolphe Berger. Pourquoi ce choix ?
Pareil, c'est avec Marie-Bénédicte, on en avait parlé, c'est une chanson que je connaissais par mon compagnon, et donc on est revenu là-dessus, et on trouve que c'est intéressant par rapport au spectacle.
Ça marche, ça va nous emmener tranquillement jusqu'à 16h. Merci encore.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je ne suis pas dupe du peu que tu m'avoues, du peu de rendez-vous que tu me donnes, du peu de coups de téléphone. Je ne suis pas dupe du peu que tu témoignes, du peu de messages d'amour quand tu t'éloignes. du peu de beaux discours. Je sais que tu m'aimes, oui même, si tu le dis peu. Je ne suis pas dupe, je peux t'aimer silencieux. Pas du peu que je t'offrais, du peu de temps, du peu de traces, du peu de place, du peu d'effet que tu m'as fait. Et tu n'es pas du peu que je dévoile, du peu de chaleur dans ma voix, au bout du fil, du peu de serments inutiles. Du peu que tu m'accordes, du peu de regard langoureux quand tu m'abordes, du peu de transports amoureux. Et tu n'es pas du peu que je te laisse, du peu d'égard pour ta faiblesse quand je te blesse, du peu de souvenirs heureux. Je ne suis pas dupée.